Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Hier, en pistant en vain le moine fou, on se retrouve au Marais, à l'ouest du territoire. C'est dans cet épisode qu'on apprend la prise de notre château par les barbares. Que voulez-vous qu'on fasse? On rassemble nos forces et on fonce. On fonce, oui, mais à notre rythme. On a chevauché toute la nuit. Il n'y avait pas une grosse lune, on a pris notre temps. On marchait souvent à côté des chevaux, mais au petit jour, on est à destination. Nous sommes les premiers. On décèle seulement une moitié des chevaux au cas où. Les tours de garde sont distribués et les autres se reposent. Le soleil est déjà haut quand le chasseur réapparaît. Il a quelqu'un en croupe. À y regarder de plus près, une passagère. C'est la fille du forgeron. Faut dire qu'elle est habillée comme un garçon. Le chasseur raconte. D'après ce qu'il a pu voir et avec les dires de la gamine, la situation serait la suivante. Il a pu s'introduire dans la place par les cuisines, le cuistot lui a fait un rapport circonstancié. Il y aurait les trois sénéchaux de l'autre fois, une dizaine de séides, le tout mené par le moine prêcheur. Celui-ci peut être impliqué dans la mort de Riton. Il pense que c'est le même moine, mais avec un œil en moins genre brûlure. Il sequestrait la reine dans ses appartements. D'après la petite qui s'est enfuie par le fenestrou d'une bergerie, les hommes du château sont enfermés dans la salle des bains. Pas une fenêtre, une seule porte, facile à garder. Les femmes et les enfants sont dans les écuries. Elle et deux copines ont profité de la panique pour se cacher dans la bergerie qui jouxte le poulailler. Elles ont gobé des œufs pendant 2 jours, puis ont décidé d'aller chercher du secours. 2 sont partis vers la voie romaine et elle a piqué vers la forêt des bandits. Le cuistot qui est assigné à résidence pense que quelques hommes du château ont rejoint les séides. Il croit aussi que 2 ou 3 petits nobles ont fait alliance avec les preneurs d'otages. On félicite la petite pour son courage. On envoie 2 cavaliers vers la voie romaine chercher ses copines. Elle dit qu'il n'y a pas de quoi et se jette sur un bout de pain. On ne sait toujours pas leur dessein, mais la présence du moine tueur annonce rien de bien. Le chariot de Raymond arrive en milieu d'après-midi avec 5 cavaliers de plus et quelques dames qui sentent les bonnes affaires. Alors que la nuit est tombée, le moine à la tête d'une troupe de bandits nous rejoint. La chef de guerre excuse Varin qui a une crise de goutte. Les lutins de la forêt sont 12 comme les apôtres. C'est le moine qui ose cette comparaison. On met le moine et Wilbert au courant des dernières nouvelles. Comme les habitants de la forêt sont bien organisés, 2 heures après leur arrivée, un chariot venant de leur camp s'annonce, avec quelques guerriers de plus et notre moine qui a encore du mal à trottiner. Ces gens sont bien élevés, ils n'ont pas oublié ni la bière, ni les cuisiniers. Ce n'est pas parce que l'on est en campagne qu'on doit manger n'importe quoi. Les feux sont allumés, 2 heures plus tard la soupe est prête. Chaque camp fait son rata. L'odeur de la boue fait arriver Bertrand le pleutre avec une forte escorte. On a dressé une table pour l'état-major. J'apprécie, je suis pour le camping, mais manger à table, ça ne me déplaît pas. Nous nous retrouvons, Raymond, Bertrand, le moine, le chasseur, Wilibert et moi-même. Nous profitons de ce repas pour échafauder les plans d'attaque du lendemain. L'air est lourd. Les gigots froids sont trop salés et tout ça donne soif. Alors, les manœuvres d'encerclement, de pénétration, d'escarmouche, de charge frontale, latérale et reculade, tout y passe. Normalement, la victoire ne peut pas nous échapper. Je pense que demain, l'affaire doit être réglée. Parce qu'on n'aura pas assez de pinards pour camper 3 jours. Cette veille de bataille tourne à la partie de campagne. Un a sorti une vielle et c'est la fête. On n'est pas très discret, mais bourré. Philibert a jeté son dévolu sur Raymond. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vous passe les détails, on n'est pas là pour ça. Là-dessus, je sombre dans les bras de Morphée et Bacchus réunis. Je pense que la bataille est déjà commencée. J'entends le canon tonner, j'ouvre l'œil, le ciel est zébré d'éclairs. J'ouvre l'autre, prends une grosse goutte sur la figure, fais le tri dans ma tête et arrive à la conclusion qu'on va se prendre un orange sur la tronche. Notre plan de bataille tombe à l'eau. Ça m'arrange parce que je ne me rappelle plus dans les détails celui qui avait été décidé hier soir. Malgré la pluie, chez les professionnels, les réflexes reprennent le dessus. Les ordres fusent. Si je comprends bien, on s'en tient au plan. J'ai dit les plans parce que chacun a sa version de l'attaque. Bertrand, qui a du savoir-vivre, nous fait repasser les restes d'une merveilleuse tarte aux pommes qu'on avait attaquée hier soir. On se la bouffe avec une eau de vie qui mérite un prix. Courage, on va appliquer ce qui a été décidé hier soir. C'est génial, ça ne peut que marcher. Je vous livre tel quel ce que je me rappelle. Au petit jour, c'est-à-dire maintenant, les troupes se positionnent en orée de la forêt à vue du château pour faire croire que nous sommes très 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 nombreux. Ils feront du bruit et changeront souvent de position. Avant l'aube, profitant de l'obscurité, trois groupes de quelques hommes se glisseront vers le château. Un par les cuisines, un autre par les granges avec une échelle pour grimper sur le toit, et le troisième essaiera d'escalader la tour. Le premier groupe va délivrer l'arène. Le deuxième ouvrir le portail et le troisième semer la panique avec des arcs et sonner la cloche. Ceux de la tour donneront le signal avec un drapeau blanc, déclenchant une charge de la cavalerie qui tournera autour du château, un groupe dans un sens, l'autre à l'inverse. C'est Bertrand qui a vu cette manœuvre dans une bataille à laquelle il a participé dans son jeune âge. Il paraît que ça désoriente les assiégés. Et enfin, une volée de flèches enflammées pour porter le feu sur une grange d'angle, facile à éteindre. Le portail s'ouvre, pied à terre et massacre à l'ancienne. C'est beau comme l'antique. Inutile de préciser que rien ne va se passer comme prévu. Première anicroche. On n'a pas fini la tarte que l'orage éclate. L'ordre est donné au petit groupe de se glisser silencieusement vers le château. Je suis avec la Philibert qui nous mène au combat. Pour l'instant, on prend une rincée monstrueuse. Il y a tellement de vent et de pluie qu'on doit se parler à l'oreille. La fière guerrière se colle à moi pour me demander de les guider jusqu'aux cuisines. Ses gros seins s'écrasent sur mon bras et ça m'énerve. Faut vraiment être barjot pour penser au cul dans de pareilles circonstances. Fin de la récréation. On reprend la progression. Soudain, le groupe d'attaque de la tour est éclairé comme en plein jour, la lettre est donnée. Comme ils font sonner la cloche, chez nous, on saute en selle. Enfin, ceux qui ont pu garder leur cheval. Les bêtes sont difficiles à tenir. Éclair, tonnerre, c'est grandiose et le merdier est complet. Les bêtes qui ont éjecté leurs cavaliers galopent dans tous les sens. On est doublé par des chevaux affolés. Les guerriers pros, stoïques sous l'orage, attendent et essayent de s'en tenir aux ordres qui ne viennent pas. Et comme les contordes vont plus vite que l'éclair, je vous laisse imaginer le bordel. On trottine courbé sur les éléments vers la cuisine. Pour vous donner un aperçu du désastre, si tu t'arrêtes, l'eau te coule dans l'arrêt du cul. Faut toujours être en mouvement pour évacuer l'eau du ciel. Le moine hurle une prière en latin pour s'encourager. Comme on passe pas loin de sa demeure, il nous quitte pour retrouver ses collègues. Pile poil qu'on n'entend plus sa litanie, le dieu Thor prend la main et la foudre tombe sur le sommet de la tour. Le toit en bois s'enflamme, la cloche tinte une dernière fois avant de chuter dans la cour. On est dans les cuisines. Le calme nous assourdit quelques instants. On explique aux cuistots notre mission. Ils veulent être de la fête, s'équipent de poils, de couteaux, de gourdins et se rangent sous nos ordres. On ouvre la porte. Dans la cour règne la plus grande confusion. On se sépare en trois. Et un seul but, le portail. Je vais faire court car il est très difficile de raconter l'irracontable. La seule chose dont je me souviens clairement, c'est que je fonce dans la cour vers le portail en hurlant. Ça peut toujours décontenancer l'ennemi. Au final, deux morts plus tard chez l'ennemi, le portail est grand ouvert et nous bataillons contre des méchants qui trouvent que ça crée un courant d'air et qu'il faut refermer. Comme ils sont plus nombreux que nous, Philibert ordonne la retraite quand une marée de cavaliers nous submerge. Ce sont les nôtres qui pénètrent en force dans le château, en taillant, écrasés et perçant tout ce qui se trouve devant eux. À l'écart, on regarde. Je laisse faire les pros. Les troupes à pied arrivent au trot. Le soleil se lève, l'orage diminue. L'état-major prend les opérations en main et ordonne le nettoyage des locaux en partant du portail et en remontant vers la demeure de la baronne. Une heure après, Raymond annonce que nous avons la situation en main. La reine a été retrouvée saine et sauve dans la porcherie. On la félicite pour son sang-froid. Le premier soir, elle a fui ses appartements, une servante prenant sa place dans son lit. Seulement, elle n'a pas pu aller plus loin que la porcherie. Eh bien, elle s'y est cachée. Quand quelqu'un est entré, elle se couchait au milieu des cochons en tournant le dos à la porte. Comme elle a de l'humour, elle avoue qu'elle ne pensait pas avoir la vie saune. Comme elle a de l'humour, elle avoue qu'elle ne pensait pas avoir la vie sauve en faisant la cochonne. Elle délègue ses pouvoirs civils à Gaston le Pleutre, le temps de reprendre figure humaine, les troupes restant sous le contrôle de Raymond le Borgne. Le calme revenu, on nettoie les traces des affrontements. Les séditieux sont regroupés dans la salle des bains. Premier travail, comprendre qui a fait quoi pour pouvoir redémarrer une vie normale. Alors, entre ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ont été violentés, celles qui ont couché avec l'ennemi, ceux qui ont été obligés de faire allégeance dans le but secret de pouvoir combattre de l'intérieur, ceux qui n'ont rien compris, certains qui ont profité de la situation et qui maintenant sont dans la merde, vas-y retrouver tes petits, comme disait la chatte. En gros, il y a du boulot pour séparer le bon grain de l'ivraie. Bertrand le Pleutre, Gaston le Bec, qui est arrivé pendant la bataille avec des renforts, Raymond le Borgne et frère Restosec président des espèces de commissions d'enquête. Une troupe de policiers a été créée avec les hommes extérieurs du château. Ils sont sous les ordres directs de Raymond. Après un premier tri, victime ou bourreau, ami ou ennemi, on dirige le client vers une autre table où ses dires sont vérifiés. Au bout d'un moment, les informations se recoupent et beaucoup sont innocentés. Soit ils étaient contre l'envahisseur, soit ils ont subi sans rien pouvoir faire. Pendant cette enquête, le château est clos. Les troupes de Raymond et Bertrand, plus les bandits, campent devant le portail et patrouillent pour empêcher toute fuite. Une journée aura suffi pour régler les gros cas. Une dizaine d'individus persuadés de connivence avec les preneurs d'otages sont enfermés sous bonne garde. Ils risquent le bannissement ou le retour à l'état de serf, voire d'esclaves. Les trois nobles du conseil qui ont pactisé sont enfermés dans la tour en attendant d'être pendus. Leur nom et leur titre ne changent rien à leur situation. Ça, c'est le tarif par chez nous. Tu trahis, tu es pris, t'es mort. Je peux pas dire que ça me fasse rire, mais c'est comme ça. Nous avions eu, jusqu'à cet incident, une bonne année. Pas trop de neige, le printemps s'annonçait prometteur. Les réserves de grains étaient encore hautes, le bétail en bonne santé et pas une épidémie à l'horizon. Mon voyage m'avait prouvé que la paix régnait sur la baronnie. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Trois jours plus tard, les morts des deux cons sont enterrés chrétiennement, service minimum. Chez eux, enfin l'ennemi donc, 11 morts, chez nous, 3. C'est l'occasion d'agrandir le carré des tombes qui devient officiellement le cimetière du château. Malheureusement, le moine fou ne fait pas partie de ces morts. Au troisième jour, la reine reprend les affaires en main et réunit un conseil extraordinaire. Sont présents les anciens membres restés fidèles, sauf Madeleine, la siffleuse qui est morte dans l'arène assassinée par un Cid qui prenait la fuite, et René le Petit qui a été piétiné par des bêtes qu'il essayait de sauver suite à l'incendie. Bertrand le Pleutre, Gaston le Bec, Raymond le Borgne et Philibert qui représentent Wilfried empêché par une crise de goutte sont invités au débat. Je vous passe les remerciements de la reine, à tous ceux qui l'ont sauvé, elle et le château, puis chacun dans son domaine fait un état des lieux. Et pour clore la session, nous sortons de la pièce et laissons les trois nobles qui vont rendre la justice avec leur suzeraine. Frère Restosec, qui était scribe, sort au bout d'une demi-heure et annonce. Moi, Pénélope, reine Frédérude, baronne de cette châtellenie, devant Dieu et le roi, usant de mon pouvoir de haute et basse justice en ce jour, ai décidé. Une peine de bannissement pour les dissidents de basse extraction. La pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive pour les nobles félons et confiscation de leurs biens et terres. ma grâce seigneuriale pour les populations des bois. Nous donnons droit de chasse sur toutes nos forêts aux hommes libres. Nous créons une manse où ils seront chez eux, sous notre protection, avec les devoirs qui leur incomberont. Chacun a tenu son rang et fait ce qu'il pensait être son devoir. J'ai dit qu'il en soit fait ainsi par la grâce de Dieu et de notre roi. Tout le monde applaudit. Chacun est encore en train de commenter lorsque la reine entre dans la pièce et annonce « Grande fête devant le château dans les 2 jours. Avec les pendaisons, avant le départ de nos invités, c'est moi qui régale. » Là-dessus, elle me convoque dans la salle du conseil. J'obtempère. Elle m'invite à manger tous les midis pour que je lui narre notre voyage à raison d'un épisode par jour. Elle prendra connaissance du rapport du moine en temps et en heure. Pour finir, elle m'annonce que je vais toucher une solde de capitaine pendant 1 année pour service rendu. Une espèce de rente, je suis confondu et je le fais savoir. Elle coupe mes salamalecs en me donnant sa version des événements. Elle me dit les tenants et les aboutissements de ce bordel. Qui serait derrière tout ça et pourquoi ? Elle n'est certaine de rien, mais j'avoue que son analyse se tient et recoupe la mienne. Je lui en fais part, elle m'écoute et me renvoie en me disant de ne pas oublier notre rendez-vous demain midi. Si tu pouvais me rendre la bague que je t'ai donnée, tu serais gentil, me dit-elle. Je la rends et je sors. Pendant qu'on remet de l'ordre au château, quelques paysans sont envoyés auprès des bergers pour récupérer le troupeau qui s'est égayé dans la nature. On mettra 1 semaine à retrouver les chevaux qui avaient repris leur liberté et au bout d'un certain temps, chacun s'en retourne chez lui. Le quartier retrouve son calme. Jeudi, c'était mon dernier repas chez sa seigneurie. Comme prévu, j'ai fait mon rapport à raison d'un épisode par jour. Une soupe claire, du gras et du pain pendant 1 semaine, ça lasse. C'est le menu chez madame. Elle mange léger le midi, se réservant pour la soirée. Mon récit lui convient et en échange, elle me fait part des dernières informations, rapport aux derniers événements. C'est pas joli, joli. Le conseil pense, et je suis d'accord avec eux, que toute la manœuvre serait orchestrée en sous-main par l'archevêque de la province. En haut lieu, chez les religieux, on n'apprécie pas beaucoup, entre guillemets, la mauvaise volonté que met Frédérune à laisser la religion s'imposer sur son territoire. Le duc, représentant du comte, ayant un pouvoir très restreint, n'a pas son mot à dire sur ses affaires de religion. Il a déjà du mal à récupérer l'impôt, le clergé passant souvent avant lui. Donc les premiers bandits, puis les sénéchaux, le moine tueur et la prise du château participeraient d'une opération de déstabilisation et plus s'ils avaient réussi à s'emparer de Frédérune. Qui plus est, l'idée stupide de sanctification du fiston n'aurait pas été bien vue en haut lieu. C'est pas eux qui ont une idée, donc c'est une mauvaise idée. Puisqu'on parle du fils chéri de la reine, il a été enterré religieusement et discrètement. On en a profité pour vider les glacières de ses cadavres. Enfin, tout ça ne laisse pas présager des lendemains qui chantent. Durant cette semaine, les 3 traîtres ont été pendus un matin à l'aube au châtaignier du pendu en petit comité. Personnellement, j'ai refusé d'assister à l'exécution. Les 7 familles expulsées du château ont quitté les lieux. En fin de compte, la sentence de bannissement s'est muée en expulsion du château et interdiction d'habiter à moins de 4 lieues pendant au moins 3 ans, le temps de réfléchir. On s'y est mis à plusieurs et on a réussi à faire plier la reine. Faut dire que dans ce genre de situation, il y a des cas de conscience. Tout le monde se connaît et on était plusieurs à penser que personne n'est à l'abri d'une connerie. Ils ont choisi le mauvais camp mais ils n'ont tué personne. Anecdote intéressante, le chasseur est devenu imbuvable depuis qu'il est sénéchal au château. Il a pris du melon, comme on disait dans le coin. J'en ai discuté avec Resto Sec et Abelaine. Ils m'ont expliqué que c'est dans la nature humaine. On te donne un certain pouvoir, tu te crois arrivé. Ils trouvent que le chasseur a les dents longues et que c'est le genre à suivre le vent. Donc vers 2 heures, je quitte l'arène pour aller siester dans ma chambrette. La porte pas encore fermée, Marguerite, qui me paraît nue sous sa couche, annonce sur d'elle. Ça m'arrange que ce soit toi, parce que j'avais décidé que le premier qui entrait avait le droit de me prendre comme une bête. Je n'ai même pas le temps de répondre qu'elle s'enflamme. Défonce-moi, je vais te vider les couilles, je suis chaude comme un loup en chaleur, etc., etc. Elle est comme ça. Marguerite, elle peut être plus grossière qu'un charretier. Elle continue à m'expliquer les derniers outrages que je pourrais lui faire subir, se caressant les seins et tirant sur ses tétons. Je vois bien qu'il faut que je reprenne la citation en main. Pile que je suis nu, prêt à la défoncer, comme elle me le demande, la porte s'ouvre. Je me réveille seul, la tête dans le cul. Je m'assieds sur le bord du banc et distingue une silhouette en contre-jour. Je fais le point, ma vue s'améliore. C'est Marguerite, encadrée dans la porte, qui me ramène ma lessive. Dis, on dirait que t'as vu le diable. Je réponds par la négative. Je prends le broc plein d'eau, m'asperge le visage et les choses se remettent dans le bon ordre. Comme c'était notre dernier entretien, la Ronne avait mis les petits plats dans les grands et le pinard a coulé à flot. En fin de repas, une petite gnôle de derrière les fagots nous a achevés. J'ai pu entrer chez moi, c'est tout ce que je me rappelle. On sort prendre l'air et Marguerite m'entreprend sur un voyage qu'elle voudrait faire maintenant que le calme est revenu. Comme quoi elle pense que ce serait bien que l'on fasse quelque chose ensemble. Bah, je rétorque que l'on baise ensemble, ce qui est déjà très bien. Elle me coupe. Madame veut voir la mer. Rien que ça. Madame a des goûts de luxe. Le moine à Bolène sait comment on y va puisqu'il y est né. Et ce serait d'accord pour nous accompagner, m'annonce-t-elle. En gros, elle a déjà manigancé l'affaire. On sort du château. Abelaine s'occupe de ses poireaux. Il confirme qu'il sait où est la mer et que d'ailleurs, l'atmosphère du quartier commence à lui mettre les glandes. Il n'a pas fait moine pour être entraîné dans des histoires de fines politiques avec guerre de religion chez lui. Il va même jusqu'à se demander s'il a bien fait de faire moine. Il sent de grands changements qui lui font peur. Grosso modo, tout le monde pense qu'un peu de recul et aller voir comment c'est ailleurs ne peut pas faire de mal. La montagne, je connais. La mer, j'en ai entendu parler, mais pas plus alors. Va pour la mer. Peut-être que le moine aura encore une famille vivante, d'ailleurs. C'est vendu. Départ pour la mer après-demain, le temps de régler quelques affaires. Dans l'ordre, je délègue mes pouvoirs sur le poulailler à tête noire, le fils du charretier Jean Legras. Il portera les œufs du jour aux cuisines. Je les ai mis en courant. Il pourra déjeuner avec les marmitons. Le soir, il fermera pour empêcher les chiens de bouffer les poules. Je porte une partie de mes économies à frère Estosec qui me les gardera envers lui. Si je ne reviens pas, il a ordre de les dépenser avec les dames quinquillantes, surtout pas les donner à l'église. La perspective d'aller claquer l'argent au bordel le fait sourire, mais en bon chrétien, il priera pour mon retour. Je demande au cuisinier de nous préparer des vifs pour le voyage. Il veut me les offrir, on s'engueule. Au final, il accepte et je paye. Je loue 4 mules, pas trop bêtes d'après le palefrenier. Dans le lot, il y en a 2 qui ont fait le grand voyage avec nous. J'arrive pas à savoir si elles me reconnaissent. Le palefrenier, qui est bon commerçant, assure que oui. C'est une location bizarre d'ailleurs. Si je ramène les mules entières sur leurs 4 pattes, je récupère mon argent, moins une petite part pour les écuries. Je règle encore 1 ou 2 problèmes avec certaines dames, mais en vrai, ça ne vous regarde pas. Vous venez d'écouter Jour à neige, jour à peine, sur Radio Bartas.